Ouverture.
Je regarde s'ils sont présents et je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Ils sont observés en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bonjour messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire s'est écrasé. Humilié. Déshumanisé.
200 000 francs la télé.
Un matin.
Dans les cours de promenade.
Salut à tous.
Salut.
Voilà, vous êtes sur 89.5 de Radio Audio. Vous êtes à l'écoute de l'émission Papillon. L'émission Papillon, l'émission qui parle de la prison et du monde qui l'entoure. Donc voilà, donc là aujourd'hui dans les studios, on est presque au complet. Et voilà, comme tous les premiers dimanches du mois, 17h30, c'est Papillon en direct. Voilà. Donc alors, on rappelle que cette émission sera rediffusée le vendredi 9 à 10h30 sur la même antenne de Radio Audio ou sur radioaudio.org et le mardi 20 à 20h sur Radio Canu sur Lyon. Donc voilà, on rappelle encore une fois, on ne répétera jamais assez, mais que vous pouvez nous écrire si vous êtes intéressé par la question, détenu, proche de détenu, etc. Donc on rappelle l'adresse. Alors c'est émission Papillon chez Radio Audio. 14 bis rue de Roubaix, boîte postale 51 42002, Saint-Étienne, CEDEX 1, ou alors sur internet, pour ceux qui ont internet, émission papillon tout attaché, @riseup.net, R-I-S-E-U-P, riseup.net. Donc voilà, sujet justement.
Ouais, à propos des courriers, donc nos fidèles auditeurs auront remarqué qu'à toutes les émissions, on dit écrivez-nous. Et là, bah, il paraîtrait que des gens nous ont écrit et nous, on n'a jamais reçu les courriers. Donc voilà, si vous nous écoutez, c'est pas qu'on est mal poli, c'est que les courriers sont restés bloqués quelque part. Donc n'hésitez pas à réessayer. On redonnera l'adresse à la fin de l'émission aussi. Et puis, si ça passe pas, il va falloir qu'on trouve des solutions pour que les courriers sortent, quoi.
Va savoir où ils sont coincés, ces courriers. Voilà.
Avis aux pigeons voyageurs.
Oui, voilà. Alors du coup, on va vite faire le sommaire de cette émission. Donc en gros, on va commencer par un petit montage réalisé par Marc sur tous les débats qu'il y a eu il y a quelques semaines, quelques mois autour des nanotechnologies un peu partout en France. Et on va écouter aussi une interview d'une proche de détenue longue peine, voilà, réalisée par nous-mêmes. Il y a quelques temps. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Hein. Puis après, oui, à la fin, on reviendra sur quelques événements qui sont passés dans le coin, dans les prisons locales. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Et puis voilà, Marc, je te laisse la parole.
Et avant de commencer, juste parce que tu l'as pas dit, sur Radio Canu, la rediffusion, c'est 102.2 FM.
Oui, voilà.
Pour que les gens le sachent. Donc là, on va parler des nanotechnologies. Donc les nanos, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est des technologies qui manipulent la matière, qu'elle soit inerte ou vivante, à l'échelle du nanomètre. Donc un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Donc c'est tout petit. Et les nanos, c'est ce qu'on appelle des technologies convergentes. Donc c'est les NBIC. Donc c'est le couplage des nanos, des biotechnologies, des sciences de l'information et des sciences cognitives. Et ça, c'est un projet de pouvoir. Donc vu que c'est un projet de pouvoir, dernièrement, il y a le gouvernement qui a demandé à la CNDP, qui est la Commission nationale du débat public, d'organiser 17 réunions publiques en France. Donc c'était du 15 octobre 2009 au 24 février 2010 pour faire accepter à la population ces technologies et surtout éviter un peu ce qui s'est passé avec le syndrome OGM. Donc voilà, donc là c'est un petit reportage. Vas-y, tu peux balancer.
C'est parti. Non, justement, c'est pas parti. Voilà, maintenant c'est parti.
Ce qui se passe ce soir, nous avons une réunion publique sur les orientations en matière de nanotechnologie. C'est un débat public auquel tout le monde participe et qui a été organisé par la Commission nationale du débat public après une demande de 7 ministres qui voulaient savoir, d'abord informer le public et ensuite savoir ce qu'ils pensaient des orientations à prendre dans ce domaine. Bien, bonsoir à tous.
Un sujet très polémique, mais finalement, les nanotechnologies, qu'est-ce que c'est ? Manipulation d'atomes, de molécules et miniaturisation à l'échelle du nanomètre. Un marché mondial de 1000 milliards d'euros en 2010 pour ce monde de l'infiniment petit. Nous sommes à Strasbourg le 15 octobre 2009. Première étape pour la commission particulière du débat public. Pendant 5 mois, ses membres vont sillonner l'Hexagone. 17 villes et autant de rencontres avec les Français, car les nanotechnologies, visiblement, ce n'est pas clair pour tout le monde. Pourtant, elles sont déjà là dans de nombreux produits de consommation.
Ma conviction est que, le temps passant, abordant des sujets de plus en plus concrets, le débat prenant sa notoriété, les choses vont aller de mieux en mieux.
Au contraire, ce sera de pire en pire. Cette campagne de manipulation tournera au fiasco.
Cela fait des années que les recherches sur les nanos sont effectuées sans notre consentement. Comme pour le nucléaire et les OGM. On ne nous a jamais demandé notre avis.
Nous sommes à Toulouse, quelques semaines plus tard, la polémique enfle. Certains ne veulent ni du débat, ni des nanos, et le font savoir.
C'est le schéma classique de la démocratie participative. On organise de grands débats citoyens qui ne servent qu'à légitimer des décisions déjà prises et à épuiser les opposants.
Ils ont jugé bon de mettre des boules contenant de l'ammoniac et de sorte que l'atmosphère est devenue irrespirable dans une partie de la salle.
Malgré l'aide d'une agence de communication, un budget de 3 millions d'euros, des vigiles, des policiers en uniforme ou en civil et le concept du débat sur Internet, donc sans public, la CNDP n'arrivera pas à stopper le sabotage de sa campagne. Sur 17 débats publics prévus initialement en France, qui n'a réuni que 3000 personnes, dont souvent des opposants, un s'est déroulé avec les experts dans une salle séparée du public, deux n'ont pu se dérouler que grâce à l'intervention de la police, trois ont été fortement perturbés par des opposants, neuf ont été carrément annulés, cinq par les opposants, quatre par la CNDP elle-même.
À Paris, dans les bureaux de la commission, on s'active. Au rez-de-chaussée, une question taraude les membres de la commission.
C'est quelque chose de complètement à part.
Oui. La ville est effectivement un pôle important des nanosciences en France et cela suscite des débats.
Vous envisagez que la réunion puisse pas se tenir ?
Qu'on ait des difficultés à la tenir, oui.
Oui, oui.
On peut envisager un blocage des accès, on peut envisager des choses comme ça.
On peut avoir des scénarios catastrophes.
Pour la prochaine réunion publique à Grenoble, il faudra tenir compte de la réalité locale, car certaines associations sont réputées pour leurs actions coup de poing.
Je demande un peu de silence.
Les organisateurs avaient raison de s'inquiéter il y a quelques jours. Pas de blocage des accès, mais un chahut qui rend le débat impossible. Et très vite le ton monte.
Bon, je constate qu'il est impossible de tenir cette réunion et que la démocratie a été bafouée par les intervenants qui font le chemin. Alors la commission particulière du débat public sur la nanotechnologie est dans l'obligation de suspendre un débat public qui se tient ce soir à Grenoble.
Un processus démocratique qui a déjà fonctionné par le passé. En 1995, la loi Barnier prévoit la tenue de débats publics pour les opérations à fort enjeu économique ou ayant un impact sur l'environnement. Pour les nanotechnologies, ce sont 8 ministères qui conjointement ont saisi la commission, mais elle est indépendante, principe de neutralité oblige.
On nous dit la Commission nationale du débat public, elle y tient beaucoup et son président y tient beaucoup, est indépendante. Monsieur Bergugnou n'est absolument pas indépendant idéologiquement, sociologiquement, de par sa position d'ancien PDG patron de EDF, de la SNCF. C'est un technarque. Il est absolument solidaire des gens qui produisent les nanotechnologies. Tous les gens de la CNDP sont également issus de la même matrice. Ils sont nommés par le gouvernement. Ils sont budgétés par le gouvernement. Les 2 millions d'euros qui servent à leur campagne d'acceptabilité, elles viennent du gouvernement.
Le concept de débat public tel que l'utilise le gouvernement, en fait, est né il y a 20 ans, au moment où on a voulu détruire le ministère et l'organisation des PTT pour faire France Télécom d'un côté et La Poste de l'autre. Les Français, déjà à l'époque, n'en voulaient pas. Et comment a-t-on fait passer cette décision-là en force ? En organisant un vaste débat public. Et ensuite, on a dit aux gens, vous voyez, il y a eu un débat, on a pu en discuter, donc maintenant, on peut le faire. Bon. De cette expérience-là, on a tiré l'organisation formelle et réglementée par des lois, etc., de la CNDP. Elle est née de ça. Et ensuite, effectivement, alors la CNDP, souvent, elle est organisée sur des territoires, sur des problématiques locales, quand on veut faire passer une autoroute ou construire un incinérateur, etc. Bon. Mais il y a eu aussi des grands débats organisés sur des thématiques beaucoup plus générales, comme ITER ou comme les déchets nucléaires, et puis les nanotechnologies qui arrivent là-derrière. Dans les trois cas, on fait ces débats alors que les décisions sont prises, que les investissements sont lancés depuis bien longtemps, que les infrastructures sont en place. Minatec, ça fait quand même 3 ans qu'on l'a inauguré. Et ensuite, on vient dire aux gens, écoutez, débattons. Alors, si on avait laissé le temps mardi soir au public présent de voir le film qui est diffusé en chaque début de réunion, mais enfin, on lui a épargné ça, on voit Jean-Louis Borloo qui dit, texto, bon, les nanotechnologies vont révolutionner nos vies, elles sont déjà là. La question, c'est pas d'être pour ou contre, c'est de discuter.
Nous, notre position est considérée comme tranchante, abrupte. Voilà. Nous, on est pour éradiquer les nanotechnologies, mais de la même façon qu'on est pour éradiquer les nuisances. On n'est pas pour gérer les nuisances. On est pour supprimer les nuisances. On n'est pas pour gérer les nanotechnologies. On ne pense pas que ce soit gérable. Quand même un polytechnicien spécialiste de la question, comme Jean-Pierre Dupuis, dit les nanotechnologies, c'est un tsunami. Bon, expliquez-moi comment on gère et on encadre un tsunami. Pour nous, la question ne se situe pas là. La question, c'est le nanomonde. C'est un changement de société. C'est de ça qu'il faudrait parler.
Quand on prend la liste des 17 réunions en France et qu'on lit les thématiques qui leur sont attribuées à chaque fois, c'est vraiment, on fait du nanomètre, quoi. Et on fait des débats très petits, sur des petits points de détail. À Clermont-Ferrand, enfin, c'était caricatural, c'était les pneus. Bon. J'exagère un petit peu, mais c'était les pneus, l'automobile, et c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que à chaque fois, on saucissonne, on parle de petits morceaux, et on perd la vision d'ensemble, alors que les chercheurs et les industriels eux-mêmes disent « les nanotechnologies vont révolutionner nos vies, vont bouleverser le monde », on ne s'attaque pas à cette question-là. On n'en discute jamais. Et la question qui intéresse la CNDP et le gouvernement uniquement, c'est la question de la toxicité et de la pollution environnementale des nanotechnologies, c'est-à-dire un truc extrêmement banal. Dès qu'il y a une nouvelle industrie, oui, il y a des nuisances, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Mais maintenant, qu'on transforme le monde en un vaste laboratoire, et qu'on transforme les gens en hommes-machines, et qu'on bouleverse complètement tout ce qui fait nos vies, ça, on n'en parle jamais. C'est un peu comme si on pensait que finalement le grand public, il n'est pas équipé pour penser ça, quoi. Il y a une forme de mépris là-dedans aussi. Dire aux gens, écoutez, oui, si je vous parle de votre crème de beauté, ça, oui, des pneus ou de vos raquettes de tennis, enfin, de broutilles, quoi. Ça, vous êtes encore capable de comprendre. Mais parler de la transformation du monde par une révolution industrielle majeure, ça, vous n'allez pas être. Ça va vous dépasser. Laissez tomber. Ça, c'est les experts qui vont s'en occuper.
Participer, c'est accepter.
C'est évident que ça permet aux organisateurs de récolter principalement la matière première de la critique qui peut être faite aux nanotechnologies. C'est ça l'intérêt pour eux. C'est-à-dire que tous les volontaires pour participer et pour prendre la parole en respectant les 3 minutes de débat, et nani, nania, tous ceux qui ont bien voulu produire un cahier d'acteurs, etc., ont fourni au gouvernement les arguments qui, d'après eux, doivent obtenir réponse. Donc, oui, moi, je peux vous dire à l'avance ce que vont être les réponses du gouvernement à ces faux débats. Je peux vous le dire maintenant, ça va être, on va encadrer, on va proposer des normes à l'Europe pour pas dépasser un certain seuil de nanopollution. On va proposer, et là on va se battre vraiment auprès des autorités européennes pour qu'il y ait un étiquetage des produits qui contiennent des nanoparticules. Et on va aussi travailler à protéger les travailleurs. On va s'employer à protéger les travailleurs qui manipulent ces produits-là pour éviter qu'ils se contaminent dans le travail. Voilà. Mais ce n'était pas la peine de faire ce raout pour en arriver là. C'est la réponse traditionnelle.
Quelle autonomie, quelle liberté nous restera-t-il quand le brevetage des atomes, après celui des gènes, aura achevé la privatisation du monde ? Quand la numérisation et l'interconnexion de chaque parcelle de la planète, objets, plantes, animal, paysages, humains, nous placera sous surveillance électronique permanente. Quelle dignité nous sera-t-il laissée quand, pucés, tracés, profilés, nous serons à notre tour transformés en objets ? Quelle vie, enfin, nous restera-t-il dans un monde artificialisé, une technonature sous commande, supposée remplacer le milieu saccagé par les précédentes révolutions industrielles ? Le débat, on s'en fout, on ne veut pas de nano du tout. Info sur le sujet sur www.nanomonde.org. www.nanomonde.org.
Donc aujourd'hui.
Ne dafelektin atmıyor, fıkaranın sözünü öldü köldük biz açlıktan etmeyen.
C'était la Turquie années 70. Donc vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Papillon, oh là là, sur Radio Dio 89.5 FM et on vient d'écouter un morceau turc de la chanteuse Shelda Bakshan et qui s'appelait Inche Inche.
Bon, et puis maintenant donc on va écouter l'interview de Sandrine. Donc c'est une personne qu'on a rencontrée cet hiver lors d'un après-midi ou d'une soirée qu'on avait organisée sur les longues peines. Donc Sandrine a un compagnon ou un ami, Rachid, qui est actuellement à Lannemezan. Et ben voilà, on vous fait part de notre rencontre. Allez, tu peux lancer.
C'est parti.
Aujourd'hui, on est avec toi pour que tu nous parles un peu de ton ami qui est en détention. Ça fait déjà une dizaine d'années qu'il est emprisonné et il va encore purger 20 ans. Donc on voulait un petit peu te demander sa situation actuelle, comment il vit sa détention, enfin actuelle ou même des années antérieures, hein. Comment lui il vit cette situation, et puis toi, par ricochet, toi et aussi sa famille, comment vous subissez sa détention.
Alors tout d'abord, moi je vais me faire nommer Sandrine et lui et Rachid. Je ne divulguerai pas les prénoms par peur de représailles de la pénitentiaire sur le détenu. Donc Rachid, ça fait 15 ans qu'il est incarcéré. Il a pris une peine de 40 ans, donc peine éliminatrice pour braquage et évasion. Il est rentré à l'âge de 23 ans, donc il en sortira à 60 ans. Il a eu 49 transferts en l'espace de 15 ans. Donc 10 ans d'isolement. Quand il demande aussi à travailler, on lui refuse le travail. Il nous met toujours loin de la famille. Donc lui, il vit mal son incarcération parce que la pénitentiaire, d'abord, elle le dépersonnalise carrément, déshumanise et elle essaie de couper de sa famille. Donc.
Et quand tu nous dis qu'il lui refuse le travail, c'est parce qu'en fait, il ne reste pas longtemps dans la même prison.
Non, parce que comme il a fait beaucoup de tentatives d'évasion, il est classé DPS, détenu particulièrement signalé. Donc à chaque fois qu'il demande un travail, souvent ils lui sont refusés de peur qu'il prépare une autre évasion.
Du coup, depuis le départ, il a jamais pu travailler en prison.
Il a jamais pu travailler en prison, mis à part faire quelques formations.
D'accord.
Et quand il est à l'isolement, est-ce que toi, tu as quand même des parloirs?
On a des parloirs, les mêmes parloirs. Par contre, on a eu le parloir caméra, chose qui est interdite en France. Mais enfin, les pénitentiaires prennent souvent le gauche.
C'est-à-dire que tout le parloir est filmé.
Tout le parloir est filmé.
C'est encore le cas, le parloir caméra?
Non, là, il n'y a plus de parloir caméra. Il est sorti d'isolement parce qu'on s'est battu grâce à un médecin qui l'a fait sortir d'isolement. Et aujourd'hui, il est en détention normale, mais par contre, il n'y a pas longtemps, il a été accusé d'une tentative. Donc en général, quand on fait on commet un délit en prison, on est mis d'office au mitard, ou alors en isolement. Là, il est accusé d'une tentative d'évasion, mais comme par enchantement, ils n'ont ni mis au mitard et ni mis en isolement. Ils l'ont transféré dans une prison. Mais la prison dans laquelle ils l'ont transféré, c'est où un membre de sa famille est incarcéré et qui a eu un souci avec des détenus qui ont essayé de le tuer. Ils ont enlevé ce membre de la famille de cette prison et ils ont mis Rachid à la place avec les futurs tueurs du membre de sa famille. Donc, pas de mitard, pas d'isolement. Donc, ils l'ont mis là pour le faire éliminer. Donc, si ça, c'est pas une peine éliminatrice, il faudra qu'on m'explique. Donc j'ai écrit au chef d'État, j'ai écrit au ministère de la Justice, j'ai expliqué la situation, qu'il était en danger avec ses détenus, mais bon, rien n'a bougé. Voilà. Alors ça, là, je ne comprends pas. Alors.
Et lui, il le vit comment au quotidien, le très fait d'être justement en prison avec des gens?
Bah, mal, parce qu'il est sur le qui-vive et avec les surveillants, avec les iris et avec les détenus. Donc déjà, il est dans un très mauvais esprit. Déjà, pour vouloir se réinsérer, il faut être bien. Avoir déjà l'entourage familial, la petite amie, être bien avec les détenus, être en...
Parce que là, il a combien de kilomètres de toi et ta...
550 kilomètres et de sa sœur, 1000 kilomètres. Donc quand on va le voir, il faut qu'on prenne 3 jours, il faut qu'on prenne 2 nuits de chambre d'hôtel. Donc c'est 200 euros par mois. Vu qu'il n'a pas le droit de travailler, donc il faut lui envoyer entre 300 et 400 euros par mois. Donc 200 euros pour nous, on y va tous les mois. Donc c'est un budget. Plus 300 à 400 euros par mois, vu qu'on lui refuse de travailler. Quand on lui dit qu'il faut payer la partie civile, il veut bien la payer la partie civile. Mais si on lui refuse de travailler, il ne peut pas, il fabrique pas l'argent. Donc nous, on est obligé de lui envoyer de l'argent. Sur cet argent, il y a une partie qui est pour la partie civile. Donc lui, il peut rien faire s'il ne peut pas travailler. On est obligé. Lui, il veut cantiner. Nous, le kilo de tomates, on paye 3 euros. Lui, il va payer 5 euros. Alors, s'il n'a pas d'argent, il ne peut pas ni avoir télé, ni cantiner. Donc après, il est obligé de prendre le repas que la pénitentiaire lui donne. Mais sachant que souvent, il y en a qui tombent malades quand ils prennent les repas de la pénitentiaire. Ouais. Parce qu'on sait très bien ce qui s'y passe. Ouais. Quelqu'un trop nerveux, on va le calmer en lui,
oui,
en lui mettant du... Hein. Voilà. Et ça, ça a été prouvé 1000 fois.
Vu lui, son statut justement de détenu particulièrement signalé, et tu peux nous justement nous raconter comment ça se passe lui pour lui les transferts?
Alors les transferts,
un peu particulier, quoi, justement.
Les transferts, donc ils viennent à la dernière minute, il lui dit prépare tes affaires, t'es transféré. Donc personne n'avertit, même pas lui, de peur, d'évasion. Donc c'est les iris qui les transfèrent. Donc chaque transfert, une raclée. Ça c'est d'office. Chaque transfert, une raclée. Quand il arrive dans une nouvelle prison, ben, il recommence, il redémarre à zéro. Mais justement, le problème des transferts, il y a un gros problème. Moi, je suis très proche de lui, je suis son ami proche. Je me bats pour lui pour qu'il sorte par la grande porte. Donc, d'ailleurs, j'avais cassé à plein de bureau. Aujourd'hui, il y a 2 ans en arrière, je me suis inscrite à la fac de droit. J'ai eu ma capacité en droit. Aujourd'hui, je suis en licence en droit. Pour comprendre justement des décisions de justice, pour me battre, mais dans un... que je comprenne le milieu juridique. Donc, c'est pour ça que je suis en licence en droit. Donc, je m'occupe de tous ces papiers. Je me bats pour lui. Donc, j'écris au juge d'application des peines, j'écris partout. Donc, quand j'écris au juge d'application des peines, j'explique la détention de Rachid, ce qu'il vit pas, sa peine de sûreté, je demande des explications. La juge va voir le détenu, donc ils font comme un accord, elle lui dit, bon, lui dit, j'ai plus d'espoir, qu'est-ce que je dois faire? Elle lui dit, ben, fais-toi voir par un psychiatre une fois par mois, fais ci, fais cela. Et lui et elle, en échange, elle a dit, si tu fais tout ça, peut-être que ta peine se verra. Donc après, il crée un lien avec le juge, donc le juge apprend à connaître le détenu, et au moment où tout va bien, il commence à... Eh bien, il est transféré. Donc, rebelote, on recommence à zéro, il est transféré, c'est plus le même juge, on recommence, on recontacte le juge, ça ne peut pas faire. Donc le juge, il sait qu'il va suivre ce détenu pendant 6 mois, et qu'après, il ne le verra plus. Donc il n'a même pas envie de prendre la peine sur cette personne, et essayer de comprendre la personne, essayer de la connaître. Quand ils disent c'est un criminel, ils ne peuvent pas dire que c'est un criminel. Ils ne le connaissent même pas. Ils ne le connaissent pas. Moi, je le connais. Eux, ils ne le connaissent pas. Ce n'est pas en 6 mois que tu vois quelqu'un, une fois tous les 6 mois, qu'on peut dire oui, c'est un criminel. Oui, parce qu'ils ont les yeux de la pénitentiaire. Mais quand un pénitentiaire, on est traité comme des animaux, quoique les animaux sont mieux traités, quand on est traité comme des animaux et qu'on est battu gratuitement, je suis désolée, ça ne peut pas faire des enfants de cœur. Hein.
Bien sûr. Oui.
Moi, je suis désolée, pour moi, c'est une machine à fabriquer des criminels. Parce que moi, on battrait en veux-tu en voilà, la violence engendre la violence. Hein. Je suis désolée. Alors quand on parle de réinsertion...
Que souvent quand il s'attendait à être transféré, il dormait avec ses baskets, tout ça.
Il dormait avec ses baskets sur Kevin. Dès qu'il entend des bruits de clé, il garde toujours ses baskets, il dort, et dès qu'il entend un bruit de clé, il dit ça y est, c'est pour moi, ou c'est une fouille, ou c'est...
Tu nous parlais tout à l'heure qu'il est resté 10 ans à l'isolement. Tu peux nous dire ce que c'est l'isolement?
Alors, l'isolement, on est enfermé 23 heures sur 24. On a une heure de promenade par jour dans... c'est grillagé, même la promenade, elle est grillagée. Et c'est... Je sais pas si la cour de promenade, elle doit faire 10 mètres carrés, c'est le bout du monde. Mais
et en
vraiment,
promenade, il est toujours seul?
Il est toujours seul, voilà. C'est carrément en isolement. Votre seul contact, c'est les surveillants de prison. C'est votre seul contact.
Il ne croit jamais d'autres détenus.
Il ne croit jamais d'autres détenus. Bon, il a toujours les parloirs. Mais même, c'est pareil, les parloirs, ils ne sont pas mélangés avec les parloirs des autres détenus. Donc, il a vraiment contact qu'avec sa famille. Et comme en plus, ils nous le mettent toujours au plus loin, donc il n'a pas des parloirs toutes les semaines. Il a une fois par mois, donc une fois par mois, il voit quelqu'un de proche. Mis à part les surveillants, il voit personne.
Et est-ce qu'il a eu accès à des formations
Oui, il a eu accès à des formations. Et là, on lui a reproposé une formation qu'il a déjà effectuée il y a quelques années. On lui repropose la même formation. Donc il lui a dit, j'ai déjà fait cette formation, proposez-moi au moins celle d'au-dessus. Après, on lui dit qu'il ne peut pas travailler. Non, mais on lui propose les mêmes choses. Et quand il va dire oui, ils vont dire, bah, vous êtes transféré. Donc voilà, et après on dit, il ne veut pas travailler, il ne paye pas sa partie civile, je suis désolée, c'est carrément contradictoire.
Non, bah, la question de, par rapport à l'isolement, c'était en fait, toi qui vas au parloir tous les mois, est-ce que tu as pu voir comment il vivait l'isolement en fait?
Eh ben moi je le vois tout de suite quand il est en isolement, parce que déjà il perd au moins 5-6 kilos vu d'œil, comme je le vois tous les mois, donc je le verrai tous les jours, je ne le verrai pas qu'il perd du poids. Mais là, il a mauvaise mine, il rigole plus. On le voit tout de suite déjà dans son comportement. Il est abattu. Nous, on le voit tout de suite qu'il le vit mal. Parce qu'on le connaît quand même, on sait comment il est. On voit qu'on a en face de nous, on a un zombie, quoi. Enfin, quelqu'un qui a perdu du poids, qui n'a plus envie de rigoler, qui est dégoûté de la vie, on lui dit, bats-toi dehors, il y a moyen, tout, on va y arriver. Mais c'est quelqu'un qui dit, mais non, vous rêvez, il n'y a plus rien, c'est bon. Ça y est. Qui me tue, on n'en parle plus. C'est quelqu'un qui n'atteint rien en plus de la vie. Quand on sait qu'on a pris 40 ans de prison et qu'il n'y a aucun. Et qu'on s'acharne sur lui comme ça, il attend que, à la rigueur, il se dit, si je t'entraîne m'évader et puis un surveillant me tuerait, je lui dirais merci, quoi. À la rigueur, il en est à ce stade, quoi.
Et l'isolement, ça pousse ces sentiments-là encore
plus. Ah bah oui. Déjà, fermez-vous chez vous, déjà. Dans un appartement même de 70 mètres carrés, on vous dit, vous n'avez plus le droit de sortir. Regardez au bout d'une semaine ce que ça fait. Pensez au bout de 15 ans.
Et toi, tu rentres en communication en dehors des parloirs. Est-ce que vous pouvez vous appeler
Lui, il peut appeler de la pénitentiaire autant de fois qu'il veut quand il est en détention normale. Il peut nous appeler 10 fois par jour. Bon, il y a les horaires. Après 18h30, il n'a plus le droit parce que les cellules sont fermées. Il peut nous appeler. S'il veut m'appeler 10 fois par jour, il m'appelle 10 fois par jour.
Il y a des cabines qui sont
mises à disposition des détenus. En revanche, quand il est en isolement, il ne peut appeler qu'une fois par jour. Par exemple, le surveillant, il dit tu pourras appeler à 16h. Donc à 16h, il appelle. Après, s'il ne nous a pas, c'est tant pis pour nous. Il peut pas dire je ressors, je retente d'appeler.
Et même en général, c'est-à-dire que toi, tu dois être en permanence sur le qui-vive par rapport à ton téléphone aussi.
Eh bien oui, dès qu'il sonne, on saute dessus, on sait que c'est lui, quoi.
Et là où il est détenu, est-ce que les pyjamas en papier sont arrivés?
On n'en a pas parlé, mais à mon avis, il ne mettra jamais ça. Hein. Parce que ça aussi, encore, c'est quelque chose d'humiliant. Moi, je ne mettrais pas de pyjama en papier, hein, parce que là, je me sentirais humiliée. Hein. Mm. Ben, moi, je le vois très mal avec un pyjama en papier, il ne le portera jamais. Hein.
D'accord.
Oui. De toute façon, ils disent... ils veulent prévenir le suicide. Le suicide, il ne peut pas se prévenir. Hein. Le suicide, ça, c'est dans la tête. N'importe quel détenu qui a pris 40 ans de prison, il y a pensé au moins une fois au suicide. Hein. Mm. On ne peut pas dire, lui, il veut se suicider, lui, il ne veut pas se suicider. Les longues peines, ils y ont tous pensé au moins une fois, il ne faut pas se leurrer. Yes. Même le plus dur des durs.
Oui.
Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se rattachent à la religion. Et c'est pour ça qu'ils ne se suicident pas, parce qu'ils auront encore plus de suicides sur dos, le gouvernement. S'il y en a qui ne se rattacheraient pas à la religion, c'est clair que les suicides, vous pourrez les multiplier par trois.
Et Rachid, il est...
C'est sa religion qui l'a interdit de se suicider, sinon il ne serait pas ça avec des gens.
Après, il a accès à des offices, des réunions religieuses
Non, il ne va pas s'embarquer là-dedans, parce qu'après, sur son dossier pénitentiaire, si admettons il est musulman et commence à s'embarquer là-dedans, on va lui dire, lui c'est un islamiste. Donc on va encore lui coller l'étiquette, donc c'est bon, déjà ils lui ont collé l'étiquette un petit peu, alors
Non, il faut éviter de divulguer.
Il ne faut pas se montrer, en fait.
Il faut éviter de le montrer parce que ce n'est pas très apprécié dans les prisons. Et...
Je voulais revenir sur les ERIS. Tu nous disais tout à l'heure qu'ils subissaient des violences. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
Ben, un exemple, il a été convoqué il n'y a pas très longtemps devant une juge. Donc, c'est les gendarmes qui l'emmenaient devant la juge. Une fois que les gendarmes l'ont laissé pour rentrer en prison, c'est les ERIS qui ont pris le relais. Ils lui ont dit de se mettre à genoux. Ils lui ont dit « à genoux ». Mais fermement, il a dit non, il se sent humilié. Quand il a dit non, ils ont commencé à le battre. Ils l'ont mis nu, mais nu, sans caleçon, nu. Ils l'ont fait mettre à quatre pattes et l'ont tapé à quatre. Et ils l'ont même piétiné. Ils lui ont marché dessus. Donc si ça, c'est pas de l'humiliation, il n'en est pas sa première et il n'en est pas sa dernière. D'abord, il a une décision de justice qui est en cours par rapport à des ERIS qui l'ont battu il y a quelques années en arrière.
Et par rapport à des choses comme ça, est-ce qu'il y a moyen de se battre, intervenir la Ligue des droits de l'homme ou
saisit le tribunal administratif. Mais après, comme ça doit être filmé, parce qu'il est filmé quand même nu, hein, au-dessus de la ceinture, ils ont droit. Au-dessus de la ceinture de notre corps, ils ont droit de filmer. Donc la juge, elle veut toujours voir les films, mais comme par hasard, les ERIS, ils ne trouvent jamais les cassettes.
Vous avez saisi le tribunal.
On a saisi le tribunal. Donc au départ, ils sont arrivés à plusieurs, ils l'ont tapé, ils l'ont mis à quatre pattes. Il m'a dit, je te dis pas tout parce que j'ai honte et j'ai plus de dignité. Ils l'ont tellement tapé que lui, il les a insultés. Donc lui, il a porté plainte, mais les ERIS ont porté plainte pour dénonciation calomnieuse, puisque quand il les a insultés, il leur a dit, j'ai 30 ans à faire et je vous tuerai. Et... Donc de la victime, il s'est trouvé l'auteur à la barre. Il a été relaxé. L'avocat était content. J'ai dit, moi, je suis pas contente. Parce que pour moi, relaxé, ça veut rien dire. Parce qu'à la base, c'est quand même la victime.
Et en se mobilisant justement pour dénoncer ce qu'on lui fait, est-ce qu'il encourt des représailles de la part de la maçonnerie justement?
De toute façon, des représailles, dès qu'il y a quelque chose, il y aura toujours des... Ils lui feront... les surveillants de prison, bien sûr qu'il y aura des représailles parce que c'est devenu la tête de Turc, donc dès qu'il arrive, comme quand il était dans une autre prison il y a 6 mois en arrière, il est en promenade, on prenait en photo avec qui il parlait, voilà, ils lui font... En fait, ils le mettent à bout pour qu'il fasse un faux pas, dès qu'il fait un faux pas, mitard et transfert. Mmh. Voilà, ça se passe comme ça.
Et lui, il est dans un esprit combatif, justement, sachant ça.
Et bien lui, sa devise, c'est... Voilà, sa devise, c'est « je ne me soumettrai pas, tuez-moi, mais je ne me soumettrai pas ». Il m'a trop fait pour que je me soumette. Je lui ai dit « mais vas-y, fais pas de blanc, je dis rien ». Il m'a dit « mais ». Il m'a dit « inverse ses rôles ». Il m'a dit « tu peux pas vivre ce que nous on vit ». Il m'a dit « tu prends des raclés, en veux-tu, en voilà ». Il me téléphone tous les jours, on est sur écoute H24, on n'a plus de liberté, on n'a plus rien. Alors qu'à la base, la prison, c'est une privation de liberté, basta. Là non, ça rentre dans des circonstances, c'est même pas la peine. Notre vie privée elle est atteinte, la dignité elle est atteinte, enfin pour détruire une personne c'est bon, c'est gagné. Hein.
Et je voulais revenir juste sur le mitard, on va s'arrêter sur le mitard, mais tu disais tout à l'heure qu'il avait été sorti une première fois grâce à l'intervention d'un médecin. C'était par rapport à quoi justement que le médecin était intervenu?
Il est sorti de l'isolement grâce à un médecin parce qu'il n'en pouvait plus, c'est là, il y a un an en arrière, il craquait, il n'en pouvait plus. Et... Le médecin, il a fait une lettre en disant, là, il est au bout du rouleau. Là, vous êtes en train de le tuer. Il va se suicider. C'est plus possible. Donc là, ils l'ont sorti de l'isolement.
Parce que du coup, pour des détenus particulièrement signalés, l'isolement, ça devient le régime normal, c'est ça?
En général, quand ils rentrent dans une prison, ils le mettent d'office en isolement, mais moins maintenant. Parce que l'isolement, il a été quand même... abusif en France. Mais la moindre connerie, il va en isolement. Le moindre doute, le moindre soupçon sur le détenu, il ira en isolement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il le pousse à faire le faux pas. Par exemple, quand il a perdu sa maman, il était dans un état d'esprit... il a perdu plein de monde depuis qu'il est en prison. Son père, sa mère, sa grand-mère... Il était vraiment pas bien. Et
un stagiaire surveillant qui lui a dit, bon, ben, c'est la douche. Lui, il avait tout le temps l'habitude d'aller à la douche, par exemple, à gauche. Et le surveillant, il lui a dit, ben, là, tu vas à droite. Et lui, il a dit, non, moi, je vais là. Donc, d'un mois à l'autre, lui, il n'était pas bien, il a poussé le surveillant. Il ne l'a pas tapé, il l'a poussé par la gorge. Et ben, il a pris... On le pousse à bout, en fait. On l'a poussé quand même. C'est bon, il vient de perdre sa mère, il est déjà en prison. Lâchez-lui la grappe, quoi. On l'a tellement poussé à bout qu'il a poussé le surveillant, et ben, il a pris. Donc, mitard, 45 jours, isolement, et 2 ans de plus de prison. Ferme. Moi, avant d'aller le voir en prison, vous m'aurez parlé de la prison, je vous aurais dit, comme tout le monde, les ignorants, c'est le Club Med. Mais en fait, non, c'est loin de la réalité, hein. C'est pas du tout ça. Faut vraiment le vivre pour voir ce qui s'y passe.
Tu parlais des vexations quotidiennes. Est-ce que, par exemple, quand ses parents sont décédés, il a pu avoir des permissions de sortie?
Non,
quand
sa maman est décédée, non. On lui a refusé d'assister aux funérailles en lui disant, par exemple, elle est décédée le jeudi, il a enterré le samedi, donc vu que c'est quelqu'un qui a voulu s'évader plusieurs fois, donc le temps était trop... pas assez de temps pour mettre un gros dispositif de sécurité autour de lui, puisqu'il a refusé de se soumettre au test ADN. Donc, ils l'ont refusé. Ils ont donné ces deux raisons.
Et pour son père, pareil?
Son père, il était moins encore détenu. Il était moins catalogué. C'était le début de son incarcération. Donc, il n'avait pas eu tout ça encore. Donc, il a pu y aller. Par contre, menotté. Hein.
Et test ADN?
Pour un détenu, c'est la double peine. Parce que on lui refuse, on lui retire toutes ses réductions de peine. Ouais. Donc, ça lui a quand même remis 6 ans et 2 mois en plus. C'est pas rien. Plus... une amende, ça c'est les peines accessoires, et plus 2 mois de prison. Donc 2 mois de prison et 6 ans, c'est pas cohérent, c'est pas proportionné. Il savait pas ce qu'il encourait. Parce qu'il m'a dit, si j'aurais su qu'on m'enlevait toutes mes réductions de peine, je leur ai donné mon ADN. Mais il n'y a pas moyen de faire marche arrière. C'est fini. Même que demain il dit, bon, ben, finalement je la donne mon ADN, c'est fini, on t'a enlevé tes réductions de peine, on n'en parle plus. Et ça date de 2004. Qu'on lui a enlevé ses réductions de peine. Et l'année dernière, un article de journal, un détenu qui a fait une requête, il a saisi le tribunal et il a donné son ADN et il a demandé à qu'on revoie pour ses réductions de peine et il a gagné le détenu. Donc c'est une première. Donc vu qu'il y a eu ça, nous tout de suite, qu'est-ce qu'on a fait? Recours. On attend. On a déposé le recours, maintenant on attend. Ce n'est pas des illusions, mais bon.
Choisis sa vie, j'avoue que la nuit mes larmes moi mes joues quand je repense à ta maladie. Mais à travers cette alliance, moi je t'ai promis ma présence, et ça pour le meilleur et pour le pire. Mon bonheur est un empire dans telle arène où ton sourire a imposé son règne. Mais depuis ma couronne en or vire au gris. Je perds mon trône quand tu me dis de refaire ma vie. Tu sais, on dit toujours que les meilleurs partent les premiers. Moi je déteste cette phrase. Quand je te regarde, je me dis qu'elle est trop vraie. Y'a tellement de choses qu'on n'a pas fait ensemble.
ensemble. À peine le temps d'écrapoter que nos projets sont déjà ensemble. C'est rêve de te voir enceinte, sont mort-nés. Je suis papa avec toi ou rien, tu me connais, je suis borné. Donc cesse de me dire pardon. Tant qu'il nous reste des secondes à vivre, on les vivra à fond.
Bébé, je veux pas te voir souffrir.
Non, non, t'inquiète pas pour moi, je suis bien qu'avec toi. En tout cas, je m'occuperai de toi jusqu'au jour où Gabriel de ses ailes viendra te recouvrir.
J'ai peur de partir non. loin de toi.
Pourtant, un jour, il faudra bien partir.
Je veux avoir une dernière chance.
Que ça a été changé la vision que tu peux avoir de la prison. Mmh. Et c'est ça qui a fait que tu t'es mis dans les études et que...
Et ben voilà, ben, avant j'avais personne en prison, donc je me rendais pas compte. Et du jour où j'ai été voir en prison, j'ai vu ce qu'il vivait. J'ai dit la seule chose pour essayer de le sortir de là, ben, c'est déjà commencer par des études de droit pour comprendre les choses, comprendre les lois, essayer de trouver des solutions. Donc c'est, ça a été là mon déclic ben, pour faire du droit. Donc c'est en fait c'est mon moteur, c'est lui quoi. D'accord. Sans ça, aujourd'hui je serais jamais un licence en droit. C'est... Donc finalement le voyou il m'a mis dans le bon chemin quoi. Mm-hmm. Le soi-disant criminel il m'a mis dans le bon chemin. Et même des fois pour sans qu'il est criminel, des fois je lui dis bon ben j'ai une dissertation à faire là-dessus, ben il a eu à travailler dessus à la bibliothèque et m'a envoyé plein de documents sur ma dissertation de droit. Donc pour cela je trouve que
faites équipe.
Voilà, je trouve que c'est...
Et toi, en gros, ça t'a demandé quoi, le fait de reprendre des études en termes d'investissement, financier, en termes de temps?
Alors déjà, quand on fait des études de droit, c'est beaucoup de par cœur à apprendre. Avec des enfants, c'est pas facile. Parce qu'il y a énormément de devoirs, énormément de choses à apprendre. Donc avec des enfants, la vie, la maison, le travail, lui en prison, c'est... Et de l'argent. Et de l'argent, parce que licence en droit, je ne peux pas la faire en formation initiale, parce que si ça prend toute la journée, donc je ne peux plus travailler, donc je pourrais plus manger. Donc il y a la façon formation continue, qui est 2000 euros par an quand même. Donc à crédit, hein, pas le choix.
D'accord, t'as été obligé de prendre un crédit.
J'ai été obligé de faire un crédit de 4000 euros pour pouvoir payer mes études.
D'accord, c'est un sacré investissement quand même.
Ouais, plus les parloirs, quand je vais le voir, 200 euros par mois.
Moi j'ai cette impression-là, que d'avoir des connaissances en droit, ça permet de faire respecter le minimum pour la personne qui est détenue. Est-ce que c'est ça?
Eh ben moi, je faisais du droit déjà pour faire respecter le détenu et essayer de trouver une solution. Je dis, c'est pas possible qu'en braquant des banques et évasion, on prenne prison à vie. Pour moi, en France, c'était pas cohérent. J'ai dit, il y a bien une loi qui va venir dire que non, je vais trouver quelque chose. Et j'ai dit, il faut que je fasse du droit pour trouver une solution. Il y en a des solutions. Bien sûr qu'il y en a des solutions, mais quand vous faites du droit, vous voyez la solution et vous voyez comment il est appliqué, des fois je me dis, je continue ou j'arrête?
Parce que pour toi, entre ce que tu apprends et justement
alors,
la réalité...
Entre la théorie et la pratique, il y a un grand pas. Je vais vous donner un exemple, vous comprendrez tout de suite, parce qu'il faut que les gens y comprennent, parce que j'en ai mille exemples. Lui, il a une grosse peine parce qu'il a deux peines qui sont, soi-disant, entre guillemets, pas confusionnables. Par exemple, il fait un braquage en 94... Il fait un braquage dans la même année, donc deux braquages de fait de même nature dans la même année. Pour le premier, il prend 20 ans et pour le deuxième, il prend 13 ans. On ne fait pas 20 plus 13. On les confusionne, la loi la plus forte, elle imprègne la plus légère. Lui, en l'occurrence, il a eu deux braquages dans la même année. Donc dans la même année, donc il est condamné pour son premier braquage à 15 ans.
il fait sa peine et on vient le trouver, on lui dit voilà, tu vas repasser aux assises, tu vas avoir t'as un braquage sur le dos. Donc déjà lui c'est l'autre, il a commencé à dire oulala, j'ai déjà 15 ans à faire, si je repasse aux assises, je ne ressortirai jamais. Donc c'est là qu'il a commencé à penser à l'évasion. Et effectivement, il s'est évadé. Il s'est évadé 5 ans après, il s'est fait attraper. Et 3 ans après son évasion, il passe en jugement pour le braquage de la même année que le premier braquage, et plus l'évasion qu'il a commis 5 ans après son braquage. Donc quand on lui a mis cette peine, on lui a jugé l'évasion, 2 évasions, on lui a jugé plus le braquage. On lui a jugé 3 choses le même jour, dans un même jugement. On lui a mis une grosse peine de prison, 26 ans. Donc ces 26 ans, ils ne sont pas confusionnables avec sa première peine, puisqu'il n'y a pas des faits de même nature, il y a des faits de... Dans les deux jugements, il y a des faits qui sont de même nature et dans la même année. Mais les évasions, elles ne sont pas dans la même année. Et à évasion, donc on ne peut pas faire confusion. Alors que ce que je disais à l'avocat, son deuxième braquage, il est bien confusionnable avec son...
premier braquage.
Le premier braquage. Si ce deuxième braquage, on l'aurait jugé en dehors de l'évasion, on l'aurait bien confusionné avec le premier braquage. Mais ils ont fait un jugement, et dans ce jugement, ils ont incorporé les évasions plus le braquage. Donc, ce n'est pas confusionnable. À la base, les faits, ils sont bien confusionnables.
Eh oui.
On peut pas les... C'est ça que...
Oui.
Voilà. Et alors, ben, moi, voilà, je faisais du droit, j'ai dit, mais là-dessus, il y a moyen de se battre. Ben non. Tout. Moi, je pense aux victimes. Toujours, on pense aux victimes. Parce que franchement, il y a un braquage, on est pris en otage. C'est vrai qu'on est marqué à vie. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Moi, j'y pense aux victimes. Hein. La première, j'ai des enfants. Hein. Mais je pense beaucoup aux victimes. Mais eux, c'est des victimes du gouvernement, les détenus. Pour moi. Pour moi, ils se voilent la face. Alors, ils ont qu'à rétablir la peine de mort. Et puis, c'est tout. Au moins, plus personne souffre. Parce qu'une peine comme ça, nous, on souffre. Parce qu'on doit souffrir. On doit mourir à petit feu. Nous, on souffre. Lui, il souffre. Notre vie, elle est basculée parce que moi, je ne peux plus me faire plaisir comme je me faisais plaisir avant, puisque ça coûte cher d'aller voir un détenu en prison. Donc, on est tous condamnés, en fait.
Bien sûr, oui.
Alors, je comprends la victime, bien sûr, je la comprends. Mais, par exemple, s'il a des enfants, ils sont condamnés, ils n'ont rien demandé, les enfants. Oui, il doit payer sa peine, c'est clair, mais je sais pas, 40 ans, je vois pas où elle est la punition, où elle est la sanction. Ça ne veut plus rien dire pour moi, 40 ans de prison.
Je voulais revenir un petit peu sur toi, donc en tant que proche, le fait qu'il soit transféré sans cesse, quand tu as des parloirs, est-ce que tu, du coup, l'autre fois on en discutait, tu disais rentrer en contact avec les autres, essayer de faire du lien avec les autres parents ou les autres proches, c'est pas évident en fait pour toi.
Bah pour moi non, parce que le détenu que je vais voir, mon ami, le problème c'est qu'il est tellement transféré très souvent. Que j'ai pas le temps de... Je vois, il y a des familles, elles se connaissent, ils discutent, ils vont manger ensemble. Mais il y a 3 ans, 4 ans qu'il est dans la même prison. Moi, comme tous les 6 mois, il change de prison, donc j'ai le temps de connaître personne. Donc je peux faire ni du covoiturage, je peux rien faire.
Et au niveau de l'aide, est-ce que tu as l'impression que les gens, les familles, elles sont motivées comme toi à l'extérieur?
Non.
Que...
Non. Non, parce que... On le voit. J'ai bien vu quand il y a eu la manifestation à Paris par rapport à l'ARPI sur les longues peines, il fallait multiplier le monde par 10, alors qu'il n'y a pas eu tout ce monde. Parce que les gens, ça ne les touche pas. Quand ça leur touchera, peut-être qu'ils viendront dans des manifs comme ça. Non, les gens, j'ai l'impression que c'est le dernier... De toute façon, aujourd'hui, on est dans une société, chacun pour soi et Dieu pour tous. Ouais. Tant que ça ne m'arrive pas, moi... Non.
L'ARPI, c'est fait pour qu'en gros les familles ne soient plus seules justement face à la détention quoi.
Voilà.
Enfin, pour toi, ce que tu as l'air de dire, c'est qu'il y a quand même du boulot à faire parce que c'est pas vraiment le cas quoi.
En fait, moi là où je voulais en venir un peu aussi, c'était est-ce que tu as l'impression qu'il y a une solidarité entre les proches des détenus? Est-ce qu'il se passe quelque chose là? Toi, tu n'es pas intégré dedans parce que tu n'as pas le temps vu que tu vis toujours les transferts. Mais est-ce que les autres se bougent le cul et font en sorte
Franchement, non. Moi, à mes yeux, non.
Et tu donnerais quelle... Comment t'analyses la chose?
Bah déjà, moi, je serais une association, déjà, j'interviendrais, comme je vous ai dit, dans des facs de droit, puisque c'est des futurs juristes, des futurs magistrats, des futurs commissaires. Déjà, leur faire des meetings et leur expliquer... j'interviendrais plus dans le sens...
Pour expliquer ce que c'est que la détention,
expliquer
en fait.
Vraiment ce qui se passe en prison, ce que c'est la détention. Que c'est plus une peine privative de liberté, c'est passé carrément à traitement inhumain. Donc, je ferai plus des meetings là-dessus. Je prendrai rendez-vous avec des députés, parce que les députés, ils ont quand même le pouvoir d'aller au Parlement et faire des propositions de loi, travailler là-dessus, faire des choses plus concrètes. Là, d'aller manifester à Paris, ils n'en ont rien à faire.
Hein, à ton avis, pourquoi les familles sont pas très solidaires entre elles ou les proches?
Parce qu'à mon avis, c'est vrai, on est tellement pris dans notre vie, on travaille, on vit à 100 à l'heure, on travaille, les enfants, le détenu, on est tellement pris dans notre vie que les gens, ils n'ont plus le temps pour ça en fait, parce que ça prend beaucoup de temps quand même. Hein. Et puis il y a des gens qui ont peur, parce que si on fait trop de meetings, on gêne trop, voilà. Et ce qu'on vit aussi à côté d'un détenu que je ne vous ai pas évoqué tout à l'heure, quand même quand un détenu il est soupçonné d'évasion en prison ou de quoi que ce soit, nous les proches les premiers, la police, on est les premiers à qui viennent chercher quand même. Hein. Malgré qu'on a un casier judiciaire vierge, moi ça m'est arrivé, oui, deux fois. Ils viennent me chercher chez moi, garde à vue, nani, nana, nana. Voilà. Alors que j'ai un casier vierge, oui. Mon ami, il s'est un détenu, bon ben. Voilà, ben on est condamné quand même, je suis désolée, ils viennent nous chercher quand même, oui.
Tu es soupçonnée.
On est toujours soupçonné. Quoi qu'il arrive. S'il trouve quelque chose dans sa cellule, les premiers soupçonnés, c'est la famille, les proches. Donc l'autre fois, on a été voir, et il y avait les iris et le chien pour les familles à la fouille. Ben, c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'il y a des enfants, on voit ces hommes cagoulés, même pas bonjour, on voit des robots devant nous. Et ben, je suis désolée, on rentre. Et ben, quelque part, j'étais soulagée. C'est vrai que c'est impressionnant, mais j'étais soulagée. J'étais soulagée parce que j'ai dit, bah, tant mieux, au moins, s'ils trouvent quelque chose dans la cellule et il y a des fouilles comme ça, on n'est plus soupçonnés.
Mais t'en arrives à un tel niveau de saturation.
J'en arrive à un tel niveau, j'ai presque envie de leur dire, mettez-moi dans une pièce, faites comme aux détenus, mettez-moi toute nue, tant pis la dignité, mais au moins la prison, je ne connaîtrai pas. Alors, parce que même qu'ils ont des soupçons et qu'ils n'ont pas de preuves, ils peuvent très bien nous mettre en détention provisoire. Et quand on est mère de famille, détention provisoire, même 2 mois, je suis désolée, et ben les gamins, ils casquent, tout.
Oui,
voilà, ça détruit toute notre vie.
Et du coup, dans la vie quotidienne, je suppose que ça fait un état de stress permanent.
Vous pouvez manger, hein, 10 kilos, vous n'en prenez pas. Ça, c'est l'avantage. Mais on a la boule au ventre du matin jusqu'au soir. Bon, aujourd'hui, il m'appelle, s'il ne m'appelle pas 3 jours, je dis, ben, ça y est, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, et on découvre par des articles du journal, il y a eu ça, il y a eu ça. Bon, ben, je dis, ben, ils vont venir. Quand ils sont venus, je leur ai dit, hein, je vous attendais. Je le savais, parce qu'on est proches. En plus, je vais voir tous les mois, donc dès qu'il y a quelque chose.
Et du coup, par exemple, la dernière fois, ça s'est passé comment? Garde à vue et perquisition?
Garde à vue, perquisition. Et convocation devant le juge. Chose que j'ai jamais connue et que je sais pas.
Ce qui fait que du coup, c'est aussi un élément qui fait que les relations entre proches et détenus à un moment donné peuvent
se rompre. Et ben elles se rompent, bien sûr, parce que lui, il est issu d'une famille super nombreuse, on est quand même reste présent à aller le voir, deux quoi. Sa sœur avec son mari, ses enfants et moi. Voilà, ça s'arrête là. Sur une famille super nombreuse. Parce que d'une, il y a la longueur de la peine, il y a 15 ans qu'il y est, donc les gens ils y vont plus. Et la peur d'aller le voir, il y en a plein, ils aimeraient aller le voir, mais ils ont peur. Parce qu'ils disent, ben voilà, ils n'ont pas envie
de cataloguer. Ouais.
Voilà, ils n'ont pas envie de connaître la garde à vue, pas. Voilà quoi.
Et pour toi, c'est une manière encore de punir le détenu, de le faire casquer?
Ah ben c'est sûr. Bien sûr qu'il est puni. Bien sûr qu'il est puni parce qu'il ne voit plus personne.
Mais le fait, par exemple, quand tu dis il y a un soupçon sur lui, on vient voir les proches, etc., pour toi, c'est le font consciemment dans...
Ah ben lui, encore pire. Alors lui, alors là, c'est le contraire de la réinsertion. Hein. Alors quand il sait que où sa sœur en garde à vue, là, il devient super agressif, hein, c'est même pas la peine. Hein. C'est « Bonjour madame la juge, un petit courrier, vous relâchez pas ma sœur, je tue tout le monde ». Voilà,
c'est une manière de mettre la pression à un détenu, mais sans prendre à ses proches. Mmh. Alors ça, ils ont tout gagné. Donc quand ils parlent de réinsertion, je suis désolée, là, c'est carrément pas cohérent, quoi. Là, ils le mettent, à bout.
Ils mettent deux au mur.
Parce que lui, il sait que, par exemple, sa sœur, elle a des enfants, elle a une famille, il se sent coupable, il se sent...
Et puis les conditions...
Et en plus, nous, les proches, c'est pas notre avantage de le faire évader, parce qu'on le verrait plus.
Et tu parles de réinsertion, mais en fait, quand tu as 40 ans à purger...
Quand les assistantes sociales, elles viennent, elles disent, bon, vous voyez comment votre réinsertion, il lui dit, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Mmh. Quelle réinsertion? Je sortirai, j'aurai 60 ans.
Bah oui.
Et puis, il n'y a plus de réinsertion, il n'y a plus rien après ça.
Et du coup, toutes les procédures que tu entreprends...
Eh ben non, mais
aussi, parce que toi, tu te bats justement pour qu'ils puissent sortir le plus tôt possible.
Alors moi, j'essaie d'être réaliste, parce qu'il faut s'aligner au gouvernement, il faut être réaliste. Moi, je me bats, je ne demande pas la lune. Comme j'ai dit à l'avocat, moi, au moins 20 ans de prison. 20 ans, il n'a pas tué, et quand même, je sais pas moi. 20 ans de prison, lâchez-le au bout de 20 ans, c'est ce que je demande. Je ne demande pas la lune, 20 ans, c'est beaucoup.
Déjà
et ben pour moi, j'en arrive à un stade que 20 ans, avant que je connaisse Rachid, que je m'occupe de son dossier, je disais 20 ans, c'est énorme, c'est... Et ben maintenant... On dirait que je demande, alors que 20 ans c'est énorme et je me rends plus compte que c'est énorme. Je m'en rends plus compte en fait. Pour moi j'ai l'impression de demander l'impossible. J'ai vraiment l'impression de demander l'impossible. Comme ça je lui dis, il lui resterait 5 ans, ça serait l'idéal. Ben non, on se contenterait de ça. Et il m'a dit, si on me dit que je sors à 20 ans, il m'a dit les 5 ans qu'il me reste, je les fais sur un pied. Et il n'y aura plus de problème dans la prison, ça c'est sûr. Parce que lui il sait que quand il voit son papy, il voit dans 5 ans il sort. Là il voit 2034.
Sa date de sortie, pour l'instant, c'est 2034.
Oui, en instance d'un autre juge. Il y a deux autres jugements maintenant. C'est un correctionnel. Donc voilà, ça y est, pour lui, c'est mort. Nous, on y croit parce qu'on est dehors, mais pour lui, il n'y a rien. Moi, j'y crois. Perso, j'y crois. Mais il faut se battre.
Ça se passe comment entre comment lui prend les démarches que tu fais et l'espoir que tu as, est-ce qu'il a
il dit toujours ouais bah vas-y fais hein, ça t'arrangera pour tes études, t'apprends comme ça t'aidera pour tes études, mais il y croit pas, mais quand je lui dis fais ça, il le fait mais déjà, j'avais pris un avocat il y a 2 ans, il lui a promis les confusions, il lui a promis, lui n'y croyait pas, et l'avocat, il a été le voir, ils nous ont fait des calculs, il a vraiment donné de l'espoir, que lui, il a vraiment repris l'espoir. Et il se voyait déjà dehors, il me disait, ouais, l'avocat, au début, il n'y croyait pas. Hein. Et l'avocat, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, il lui a fait des calculs, tout, il lui a dit, c'est bon, ce sera accepté, donc lui, il se voyait déjà dehors. Dans 8 mois, il lui avait dit. Et bien, quand ça a été refusé, ces confusions, il a pris une sacrée calotte. Hein. Et l'avocat nous avait demandé l'argent, effectivement, on a donné la somme qu'il nous a demandé. Moi j'avais dit 5, 10, 15, 20, 30, 40 000, ce que vous voulez, mais je veux de la liberté derrière. J'ai dit, vous étudiez le dossier, mais on veut de la liberté. Il a posé son prix, on lui a donné. Et bien il est toujours dans, et ben, il a pris une deuxième calotte.
Et ben, c'était quoi son prix?
5 000 euros.
Oui, ce qui est des grosses sommes, assez énormes.
Et qu'on paie encore aujourd'hui des crédits. Et ben là, après il me dit, c'est bon. Alors là, quand je lui dis, ouais, je vais prendre un autre avocat, il fait la gueule, hein. Il ne veut plus qu'on me donne un centime. Hein.
Ben oui, parce qu'il doit culpabiliser aussi et du fait que vous vous ratez derrière. Lui,
il se sent un boulet.
Ça sert à rien.
Nous, il se sent un boulet. Hein. Ouais. Des fois, il a envie de couper les ponts avec tout le monde.
Et toi, cette incarcération, ça t'a changé
Ouais.
T'es plus la même Sandrine.
Je suis plus la même, d'abord. J'étais un peu rebelle de caractère. Mais alors là, maintenant, je suis encore plus rebelle.
Moi, j'avais une autre question à te poser, on en avait un peu parlé par rapport à tout ce que tu racontes, c'est l'impression qu'il y a une différence entre le regard que peut porter l'administration pénitentiaire et les flics sur les gens, et à la fois la façon que ce regard-là peut enfermer,
Et en même temps, il est super loin de la réalité, en fait.
Voilà, et ben voilà, moi, c'est un garde à vue, ma deuxième garde à vue, que je me suis rendu compte qu'il cataloguait en tant que criminel, en tant que... En fait, moi, le regard que j'ai sur lui, et la pénitentiaire et la police, le regard qu'ils ont sur eux, il y a une falaise entre ce que lui, il est vraiment, et eux, comme ils le cataloguent, c'est pas du tout ça. Eux, ils le voient en criminel, hein, ouais, il a tiré sur la police, il a fait ci, il a fait ça. Ils le cataloguent vraiment criminel, alors qu'il n'est pas comme ça. Je le connais quand même mieux qu'eux, je le côtoie, moi je le connais, je vous parle, c'est un ami que je connais, je ne l'ai pas connu en prison, hein. Moi je l'ai connu, j'étais petite. Hein. C'est pas quelqu'un que j'ai rencontré il y a 25 ans qu'on se connaît, je sais qui il est, moi je l'ai connu, il ne volait pas. Je sais vraiment comment il est. Et en fait, voilà, ça c'est un problème qu'il faut soulever. Par exemple, quand il me parle au téléphone de la pénitentiaire, on sait qu'on est sur écoute, donc il fait le dur. Il fait le dur, celui qui n'est pas trop... il se fait une carapace. Il ne veut pas faire... Et quand on est ensemble au parloir, là, il est doux, il est lui, il est vraiment lui. En fait, il se fait une carapace, il se fait dur, mais il n'est pas comme ça. Donc eux, ils ont un jugement négatif à fond sur lui.
Parce qu'il se protège lui aussi.
Voilà, il se protège, il se fait une carapace, oui. Il se fait dur. Donc eux, c'est leur façon de se... Eux, quand ils voient qu'ils sont enterrés vivants, qu'est-ce qu'ils font? C'est pareil, ils sont prêts à tout. Donc ils disent, oui, il est dangereux, il était prêt à utiliser des armes, des explosifs. Mais demain, s'ils le relâchent par la grande porte, il n'y aura pas d'armes, il n'y aura pas d'explosifs. Parce que là, ils sont dans un contexte, c'est, je passe ma vie en prison. Donc, en fait, on ne peut pas juger quelqu'un dans ce contexte-là.
Est-ce qu'il n'y a pas le fait aussi qu'eux, justement, ils empirent la vision qu'ils ont de lui et ils se montrent des scénarios
Mais carrément. Mais ils se montrent vraiment des scénarios. Des fois, c'est pour ça qu'ils ne le connaissent pas vraiment. Un juge, il le suivrait vraiment depuis 15 ans. Il pourrait dire, oui, je le connais, il est comme ça. Mais là, ils ne le connaissent pas. Et puis, c'est une carapace, bien sûr.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
C'est
un bonjour ou n'importe quoi, vas-y.
Eh ben, un gros bonjour à son demi-frère, je ne dis pas son nom parce que encore une fois, j'ai peur des représailles pour lui, pour sa famille. Et en général, s'il écoute cette émission, il se reconnaîtra et il saura de qui je parle. Il faut qu'il garde la pêche. Voilà, un grand bonjour.
Okay. Bon, très bien.
Eh ben, merci à toi.
Allez, merci,
toi.
Ouais.
Un autre café?
Oui.
Et ben voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Papillon sur 89.5. On vient d'écouter donc l'interview de Sandrine. Donc on la remercie grandement de nous avoir consacré.
Oui, et bon courage quand même, c'est courageux tout son parcours et celui de Rachid aussi. Donc voilà, bon courage à tous les deux.
Ouais, bon courage à tous les deux. Avant de continuer l'émission, on va peut-être se passer un petit morceau de musique. Et moi, je voulais passer un morceau de rap d'un groupe qui s'appelle... je sais même plus.
La canaille,
merci. Et le morceau s'appelle
Arrêtez
ce train, je crois.
Ouais, allez, c'est parti.
Voilà, bonne écoute.
Les charognards aux armures brillantes se pavanent et trinquent à la santé des cigarières de la vanne. La tête dans l'engrenage d'un long combat ordinaire, je viens marteler la terre d'un tas de paroles incendiaires mélancoliques. Je ne rêve plus d'équilibre ni d'harmonie. J'entends se rapprocher le grincement des automates sur le fil. Je rêve de ne pas sombrer dans la folie et de finir par avancer le dos courbé à quatre pattes. Les semelles usées, la voir traîner un peu partout, à cravacher comme un chien, la gueule ouverte et l'air de rien. J'en sors traumatisé, de gérer ma vie au coup par coup, d'avoir la même rengaine qui vient rythmer le quotidien, toujours à cran. Jusqu'à quand et jusqu'où? Jusqu'au dernier retranchement, jusqu'à plus tenir debout. Je ne vois que des caboches saturées de plomb à l'horizon, des visages sans nom qui hurlent seuls à l'unisson. Arrêtez ce train. Arrêtez ce train, je veux descendre. Arrêtez ce train. Là-bas il n'y a plus rien que du feu et des cendres. Arrêtez ce train. Arrêtez ce train, j'ai dit je veux descendre. Arrêtez ce train. La foule crie, le sang des personnes ne peut l'entendre. furieux sentiment d'impuissance me terrasse, me vide de ma substance à mesure que le temps passe. Je n'ai pas choisi le wagon, ni même la direction, et je m'enfonce tout droit dans ce tunnel funèbre en perdition. Une odeur putride plane et lacère l'atmosphère. J'ai la rétine choquée devant le charnier à ciel ouvert. Je ne me reconnais pas dans ce monde, je n'y trouve pas ma place, et je suffoque perdu dans le dédale des couloirs de l'angoisse. Ce train n'a ni queue ni tête, il roule à vive allure et écrase tout sur son passage. Monteur au bord de la rupture, à l'intérieur c'est la panique. Les neurones court-circuitent, ça va trop vite pour établir. On connaît tous la suite, maudit soit la race des puissants, aiguilleurs du chaos, leurs instincts suicidaires et leurs penchants pour l'échafaud au coin des lèvres. Toujours cette arrogance, ce petit rictus, mais ils oublient pour eux aussi, il n'y a qu'un mur comme terminus. Arrêtez ce train. Arrêtez ce train, je veux descendre. Arrêtez ce train. Là-bas, il n'y a plus rien que du feu et des cendres. Arrêtez ce train. Arrêtez ce train, j'ai dit, je veux descendre. Arrêtez ce train. La foule crie, le scande et personne ne peut l'entendre.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Papillon sur Radio Canu, sur Radio Dio, sur Radio Comptoir, sur Radio Dio 89.5 FM. Et ouais, on est déstabilisé par l'arrivée d'une pote là, et du coup voilà. Donc ouais, vous avez écouté l'interview de Sandrine là, et du coup bah ça permet de rebondir en fait cette interview sur la petite revue de presse qu'on a réalisée par rapport à tout ce qui s'est passé cette semaine dans la tribune Le Progrès, puisque la presse, donc la tribune Le Progrès a publié une série d'articles sur la violence qui règne dans les prisons de Rhône-Alpes, et donc plus précisément à Corba, à Roanne et à La Tallo à Saint-Étienne. Donc voilà, donc ça a commencé en fait par un premier article qui est paru mercredi et qui revenait sur un événement qui s'est passé dans la nuit du 17 mars dernier à Corba, où on apprenait qu'un détenu ça s'est passé dans la nuit, et un détenu a fait déclencher l'alarme incendie en fumant en fumant dans sa cellule. Donc là, les gardiens sont intervenus, et le lendemain parloir, le prisonnier montre son corps complètement tuméfié à son avocat. Suite à ça, il y a une procédure qui s'engage, et 6 surveillants sont placés en garde à vue, et 3 sont renvoyés devant le tribunal. 3 surveillants seront envoyés devant le tribunal pour des violences sur cette personne. Et donc la tribune Le Progrès relaye largement la parole des matons, qui tout de suite la traditionnelle rengaine du prisonnier au profil dangereux, violent, provocateur. Et voilà, et les syndicats de matons qui en rajoutent une couche. Donc les surveillants, ils sont tout le temps victimes d'insultes, de dénonciations calomnieuses, parce que ça, c'est une dénonciation calomnieuse, et victimes de diffamation. Forcément, les surveillants sont victimes des prisonniers, et puis des prisonnières. Et du coup, dans cet article, dans cet article qui relaie la parole des détenus, des syndicats et des matons, on n'a pas du tout entendu la parole du prisonnier concerné, ni même la parole de sa famille, de ses proches, etc. Donc, cette affaire qui fait tâche, s'ensuit dans la foulée, d'un côté dans le journal, un autre article. Donc là, c'est l'arsenal de communication de l'administration pénitentiaire qui sort les armes. Donc, direction interrégionale des services pénitentiaires, direction des établissements de Corba et compagnie et de La Tallo, les syndicats de matons, qui dans la même page, là, c'est ça y est, on parle de la violence et de l'agressivité des prisonniers, en fait. Il y a tout un article sur ça, et la base, en fait, c'est juste, ils prennent le prétexte d'un projet d'étude de fermeture du quartier de mineurs à Saint-Étienne pour dire voilà, les surveillants, ils sont victimes de la violence des détenus qui sont cassés au bout d'un an de service, et voilà. Donc ça continue avec un autre article, une brève. Donc là, toujours la paix, là, avec le main dans la main, avec le progrès, sort un vieux dossier qui date du 11 mars dernier et qui revient sur l'histoire d'un détenu à Rouen qui a tenté d'agresser un surveillant avec un couteau fabriqué dans une boîte de sardines. Hein. Donc voilà. Encore s'ajoute à ça un autre article qui est intitulé, alors là, on ne peut pas être plus explicite, l'agressivité des détenus inquiète les surveillants de la Talaudière. Voilà. Et là, ils font état d'un mouvement qu'il y a eu en promenade. Voilà, un type qui a voulu redescendre en promenade et qui a violemment agressé un maton, etc. Et là encore après, toujours la paix sort les gros moyens, enfin la direction régionale, tout ça, sort les gros moyens, interrégionale, pardon. La direction interrégionale, je me reprends, des services pénitentiaires sort les gros moyens. Et parle, enfin, et voilà, et dit qu'elle est satisfaite des 3 nouvelles prisons supplémentaires en Rhône-Alpes hein, qui viennent de s'ouvrir, donc Corba, Rouen, Bourg-en-Bresse, et voilà que ça va permettre d'énormes progrès. Et à ça encore s'ensuit un article sur la labellisation aux normes européennes de la maison d'arrêt du Puy. Donc voilà, donc ça fait au total une série d'articles, un seul consacré à la violence des surveillants. 3 consacrés à la violence des prisonniers et 2 consacrés à l'amélioration des conditions dans les prisons de Rhône-Alpes et d'Auvergne. Donc voilà, en fait, toute cette série d'articles, donc ça nous a donné envie de rebondir sur la réalité de la violence en prison. Et parce que voilà, si la presse, elle relaie la version uniquement la violence des détenus, il faut aussi parler de la violence psychologique et physique qui est exercée par la pénitentiaire, par le biais des matons à l'encontre des prisonniers. Puis c'est aussi ce qu'évoquait en fait Sandrine dans l'interview. Hein. Et voilà. Et ça, cette violence, elle n'est pas nouvelle. Donc, pour revenir sur cette histoire là de détenu qui fumait dans sa cellule, en fait, nous, enfin vraiment, ce qu'on tient à dire, c'est un détenu qui fume. Enfin, combien il y a de détenus qui sont en train, qui craquent là à l'intérieur, qui cogitent la nuit, qui arrivent pas à dormir malgré les traitements qu'ils prennent, les traitements de choc hein, qu'ils prennent. Combien ils sont à ne pas pouvoir dormir la nuit et puis bah prendre des cachons, etc. Puis bah t'allumer une clope, enfin qui ne l'a pas fait la nuit, se réveiller, allumer une clope. Donc voilà. Donc un truc complètement banal, voilà, qui pas hélas, ça dévie tout de suite sur l'agressivité. Donc bref. Toujours sur aussi un, enfin sur le truc des pauvres surveillants qui viennent d'arriver, qui sont maltraités, malmenés. Enfin, il faut aussi dire que les surveillants stagiaires et les nouveaux surveillants, c'est toujours les plus zélés, quoi. Et nous, on a des petites histoires comme ça, voilà, de personnes qui sont incarcérées, qui vont dire, bah voilà, il y a aussi une violence psychologique, par exemple, c'est celle, quand t'as des photos qui sont accrochées dans ta cellule, tu reviens de promenade et que t'as tes photos au sol, parce qu'elles ont été arrachées par le surveillant, parce qu'il dit, non, elles sont pas collées dans le petit espace qui est imparti pour ça, tu sais, dans le petit carré. Donc là, tu reviens, bah ouais, ça t'alimente une violence, t'sais, et c'est normal, quoi. Donc voilà. Et après, il y avait aussi la version d'Yvan Brun, donc, qui travaille à la Talo, hein, qui est un surveillant de la Talaudière et qui est le délégué CGT à la Talaudière, et qui ose affirmer ça, en fait, que les prisonniers sont de plus en plus dispensés des sanctions disciplinaires, quoi, pour des raisons médicales. Donc, et d'une, ça veut dire que les médecins se plieraient seraient main dans la main avec les, c'est ce que ça sous-entend, qu'ils seraient main dans la main avec les prisonniers. Et donc, au moindre truc, bah voilà, ça sera un alibi, genre la santé, enfin bref. Donc, ce qui n'est pas du tout vrai dans la réalité, parce que souvent, les médecins, bah voilà, hein, qu'est-ce qu'ils filent? Ils filent des petits cachetons quand ça ne va pas, et puis ils ne remettent pas du tout en cause que l'enfermement détruit une personne. Donc voilà. Puis en plus, maintenant, on leur demande d'alimenter des fichiers pour dresser des profils dangereux de détenus. Donc voilà. Donc ça, c'est faux. Et d'autant plus que nous, on se rend compte par des témoignages aussi qui viennent de l'intérieur que toutes les bagarres ou la découverte de trafic, en fait, qui sont vraiment liées à ce que crée l'enfermement, etc., qui avant donnaient lieu à des sanctions qui étaient généralement le mitard, etc., maintenant, c'est souvent accompagné d'un dépôt de plainte supplémentaire de l'administration pénitentiaire. Donc, ça veut dire que t'es incarcéré pour un truc, et qu'en plus à ça, tu fais des trucs dans la prison qui sont liés vraiment au fonctionnement de la prison, et qu'en plus de ça, bah, tu vas te prendre une peine, alors que l'administration pénitentiaire sait parfaitement que ça se passe comme ça, que tu vas te prendre une peine supplémentaire avec une convocation chez les flics, etc., et que ça va du coup alourdir ta peine, en fait. Voilà. Des délits comme ça que la prison crée d'elle-même, en fait. Donc voilà, et d'autant plus qu'à Rouen, c'est le type qui a agressé, il a direct fini, qui a agressé un surveillant avec son petit couteau, la Fabriquer Maison, il a directement fini en comparution immédiate, et à chaque fois, il y a vraiment, enfin, c'est pas vrai, ce truc de laxisme, c'est complètement faux. Donc voilà, on est assez pressé par le temps, donc je pense que je vais pas trop déborder. Mais tout ça pour dire que là, il y a eu un mouvement de protestation il y a eu un mouvement à la Talaudière cette semaine, et que justement, ça aussi, ça a alimenté la presse locale pour dire toujours des détenus toujours plus violents et tout. Et nous, on veut vraiment, enfin, par le biais de cette émission, c'est aussi, voilà, on est une petite goutte, un petit grain de sable qui essaie justement de casser un peu cet arsenal de communication de la paix. Et nous, voilà, on compte vraiment sur vos témoignages pour dire vraiment ce qui se passe et donner un autre son de cloche par rapport à cette violence, parce que, hormis parler des profils dangereux des prisonniers, on a l'impression que la violence de la paix n'existe pas. Et du coup, ils sont toujours en train de se cacher derrière, enfin, cette espèce d'excuse que les prisonniers sont toujours plus violents, enfin bref, donc voilà. Donc vu qu'on est pressé par le temps, je vais... Voilà.
Et c'était pourquoi ce mouvement de protestation ?
Ouais, c'est qu'en fait, donc c'est là où vraiment on a besoin de témoignages aussi pour bien clarifier les choses. C'est visiblement, il y aurait un paquet qui aurait été balancé dans la cour de promenade et que l'administration pénitentiaire aurait voulu genre supprimer la promenade à tout le monde. Un surveillant serait... Donc voilà, il y a commencé à avoir des protestations, puis un surveillant un peu plus zélé qu'un autre est descendu en promenade, alors que les surveillants, c'est dans les directives qu'ils ont, ne doivent pas descendre en promenade, parce que la promenade, c'est vraiment le dernier espace de liberté, en fait, qu'ils ont... Enfin, vraiment, c'est considéré comme un étouffement. La prison, même, quelque part, où ils le présentent pas comme ça, mais on montre que cette directive montre qu'en vrai, la prison, c'est un espace d'étouffement, et que la promenade, bah voilà, les surveillants, ils ont pas à y être, en fait. Et du coup, le surveillant étant dans la promenade, il a commencé à se faire encercler, normal, quoi, parce que t'as pas à être là. Et du coup, bah, il y a eu des représailles de l'administration pénitentiaire par rapport aux gens qui participaient à ça. Donc vraiment, c'est là où c'est important, c'est on a besoin de témoignages, faites sortir cette parole, parce que voilà, la paix a vraiment, la paix, ouais, elle a vraiment la place dans les médias locaux, etc. Et qu'il est vraiment nécessaire d'entendre un autre saut de cloche, surtout des premiers intéressés.
Et justement, l'adresse, c'est
Émission Papillon, 14 bis rue de Roubaix, BP 51 42002, CEDEX 1. Voilà, et vraiment, faites parvenir vos courriers.
Ouais, et précisez bien, chez Radio Dio.
Et on renverra des timbres à ceux qui nous écrivent.
Oui, bien sûr. Et ben voilà, dans tous les cas, comme on le disait au début, s'il y a des courriers qui sont malencontreusement perdus, on n'a pas trop compris pourquoi, bah, n'hésitez pas à réessayer, parce que nous, on répondra, quoi. Si on répond pas, c'est qu'on n'a pas reçu, donc n'hésitez pas.
Et puis il existe plein d'autres moyens pour envoyer des courriers que par la poste aussi.
Voilà, donc l'émission, elle va toucher à sa fin. On voulait revenir, alors ce sera très rapide, sur le procès de l'incendie du centre de rétention administrative de Vincennes. On vous en a déjà parlé plusieurs fois. Donc il y a eu le verdict de ce procès, donc c'est des gens qui étaient accusés plus ou moins au hasard dans la masse des gens d'avoir mis le feu à ce centre de rétention en juin 2008. Le procès, il a duré longtemps, ça a été une grosse mascarade judiciaire, mais juste un peu plus médiatisée que d'habitude, et aussi c'est assez rare, mais les avocats de la défense avaient vraiment la niaque. Ceci dit, quand même, les peines, elles sont lourdes, donc il y avait une dizaine de personnes... ça va faire 12, je sais plus compter, 10 personnes, ouais. Donc il y a une personne qui a pris 36 mois de prison ferme, 4 qui ont pris 30 mois de prison ferme, 1 qui a pris 24 mois, 2 qui ont pris 12 mois et 2 qui ont pris 8 mois. Donc c'est quand même vraiment lourd comme peine. Et à savoir que en fait ce procès, bon, c'est un truc super grave, mais autour de tout ça, il y a beaucoup de solidarité, de mouvements de résistance, de lutte de sans-papiers. Il y a quand même plein de travailleurs sans papier en ce moment en grève en France et notamment à Paris qui font plein d'actions, qui sont en grève pour leur régularisation. Parmi toutes les actions de solidarité, il y aura bientôt des actions contre Air France, en fait, pour foutre la pression à Air France, parce que c'est eux qui sont responsables de la plupart des expulsions. Ils collaborent main dans la main avec les autorités. Et donc le samedi 17 avril, et puis le 15 et le 29 mai, et un peu tout le temps jusqu'à juillet, Il y aura, en fait, le but, c'est d'aller voir les agences Air France et de leur dire « Je suis un client et quand même, ça me choque vachement que vous expulsiez des sans-papiers, alors arrêtez. » Et voilà, de leur foutre la pression comme ça et de voir si ça marche. C'est une action parmi d'autres.
Et il y avait eu aussi, au moment du procès, là, il y a des amendes qui sont tombées pour des outrages aux flics. Ils ont porté plainte parce qu'ils ont été choqués, qu'on leur parle mal et patati. Et ce sont des amendes assez lourdes, hein, qui vont de 600 à 2500 euros de mémoire. Hein. Ouais. Donc il y a plusieurs personnes qui sont condamnées à payer des amendes. Ouais. Quoi.
Et puis il y a des grosses amendes aussi pour... de la part du... C'est l'État, en fait, qui demande réparation pour le centre de, de rétention qui est parti en fumée. Donc, oui, ça fait des grosses amendes aussi. Je n'ai pas tout détaillé.
Puis voilà. À préciser aussi vite fait qu'il y a plein de mouvements de lutte en ce moment dans les centres de rétention en Italie. Donc, voilà, il n'y a pas qu'ici. Voilà, on passe à l'agenda.
Ouais.
Si on a fini là-dessus.
Oui. Alors, déjà, il y a le dernier journal de l'Envolée qui est sorti.
Et qui rentre à la carrière, qui passe à la Talo. Hein.
Voilà, donc tant mieux. Voilà, donc vous pourrez le trouver auprès de nous bientôt.
Gros plan.
Sûrement décimé, quoi. Mais sinon, après, il est toujours diffusé à l'étrange rendez-vous. C'est la librairie de bande dessinée qui se trouve à côté de la Bourse du Travail.
Parle dans le micro, Marc.
Qui se trouve, je pousse Olga.
Pousse Olga, parle dans le micro.
Donc, il sera toujours normalement à l'étrange rendez-vous, qui est la librairie de bande dessinée. Ça se trouve à côté de la Bourse du Travail. Et l'adresse de mémoire, si je ne me trompe pas, c'est 1 rue Fort-Belon, je crois. Voilà. Donc, normalement, d'ici mai, il devrait être un peu distribué un peu partout.
Et j'ai une question con, mais personne ici autour de la table a l'adresse de l'Envolée pour le commander ?
Absolument pas.
Boulevard Stalingrad.
Bravo, professionnalisme. Bah, désolé, nous n'avons pas l'adresse.
Ça, c'est fait. On la donnera la prochaine fois. Sinon, il y a le samedi 17 avril à 15h à la librairie La Griffe à Lyon, dans le 7e arrondissement. Donc, 17 avril à 15h. Il y a une rencontre débat sur un sujet un peu chaud, c'est l'infanticide. Voilà, donc il y a des personnes qui ont écrit un ouvrage collectif à ce sujet et qui essaie d'enclencher une réflexion autour de ce sujet, quoi. Donc voilà.
Sinon, le 10 avril à Lyon, donc samedi prochain, à partir de 15h, place Bellecour, il y a une grosse manifestation antifasciste qui se veut vraiment large et unitaire pour dire non, parce que là, il y en a marre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses fascistes, racistes qui se passent. Et le but, c'est vraiment d'être rassemblés à plein, voilà, pour protester.
Donc le 10, c'est quoi, la fête aux fachos ?
Le 10, c'est la bagarre générale, encadrée par les services d'ordre des partis politiques.
Place Bellecour.
Et l'avenue de Nadia ?
Voilà. Alors, le 30 avril, ce sera un vendredi, la veille du 1er mai. Oui. Alors,
l'adresse de l'Envolée.
Coupez la parole. L'adresse de l'Envolée, c'est quoi ? Prenez vos stylos.
83 rue de Stalingrad.
43 rue de Stalingrad. Cool. Stalingrad. 93 100 Montreuil.
Sinon, par mail, c'est envoléradio@yahoo.fr.
Voilà, et bon. Donc l'Envolée, c'est gratuit, c'est un journal qui est gratuit pour les prisonniers. Voilà, donc...
On peut remercier notre auditeur, il a gagné une peluche.
Voilà, notre auditeur a gagné une peluche. Oh là là, mon Dieu, ça y est, je suis perdue dans ce que je disais. Le 30
Nadia,
avril,
Nadia, ouais.
Samedi 30 avril, à la dérive, c'est 31 rue Basse-Dérive à Saint-Étienne, derrière la fac Tréfilerie. On va organiser, mais il n'y aura pas que nous, une soirée donc sur la tôle. Donc d'abord, il y aura Nadia Ménanger qui a fait un livre, c'est un recueil de textes sur Thierry Chadbi, qui était un détenu longue peine, qui a fait plein de choses et écrit plein de choses très intéressantes. Et notamment, il a participé à des sacrés mouvements de lutte dans les années 80 dans les tôles. Enfin voilà, c'est... le genre de parcours vraiment intéressant à connaître et tout. Donc, elle viendra nous parler de ce bouquin. Et ensuite, eh ben, on enchaînera avec une petite fête, avec des mix et tout ça. Et puis, le but, c'est de récolter un peu d'argent et pour un pote qui est en prison. Voilà. Donc, ça, c'est le 30 avril à la dérive.
Et sinon, il y a le festival Avatarium. Vas-y, tu vas nous en toucher deux mots. Allez, vas-y, viens.
Soyons fous.
Mais ceci dit, il y a 2-3 programmations qui sont intéressantes. Je ne parle pas de la musique pour le coup. Mais le problème, c'est que je ne l'ai pas sous les yeux. Donc, je ne me souviens ni de la date, ni de... C'est le truc qu'il y a sur les Diggers. Mmh. C'est samedi soir sur une initiative qui a eu lieu aux États-Unis par les communautés noires. C'est samedi à... Je ne sais pas, vers 17h. Probablement 17h. Vers 17h au musée de la mine à Saint-Étienne.
Voilà. Ouais, juste pour juste pour préciser, le livre de Nadia là s'appelle Ne me libérez
à ceux qui se croient libres. Ouais. Bon voilà, et puis si vous voulez plus d'infos sur le festival Avatarium, en fait ça va en parler un peu toute la semaine. Donc oui, mais c'est plus à 15h, c'est à 17h parce qu'ils sont solidaires avec la manifestation antifasciste à Lyon qui se passera en même temps. On va se quitter, c'est ça?
Ouais, on va se quitter. Juste moi, avant, j'aurais faire une grosse bise à Nabil.
Pareil.
Voilà, je vais t'écrire dans la semaine, t'inquiète pas. Et juste, je veux juste dire un truc, c'est voilà, quand vous êtes proche de détenus, arrêtez de faire confiance en l'administration pénitentiaire, dans les magistrats, tout ça, parce que eux aussi font des merdes. Et remettez pas votre confiance, vos décisions dans leurs mains. Informez-vous, luttez, et voilà, c'est vraiment ce que je veux dire parce qu'il y a trop de problèmes comme ça, quoi.
Et racontez pas n'importe quoi aux flics.
Ouais.
Voilà, grosse bise et bon courage à tous.
Salut tout le monde.
Ouais, alors précise en 2 secondes, on va se quitter avec un petit groupe de Saint-Étienne qui s'appelle Königstein Youth, et en fait, ils ont mis en musique un texte de Laurent Jacquat, qui était un détenu longue peine, qui a écrit entre autres La guillotine carcérale, Silence, on meurt, qui est un livre vraiment très bien, qui c'est vraiment quelqu'un de vraiment très bien, qui s'est bien bougé et tout. Donc voilà, c'est Je vomis ton nom, et ça parle de la tôle. Et voilà, c'est Königstein Youth de Saint-Etienne. Et on vous laisse, et on vous dit tous au mois prochain en direct sur Radio Dio 895. Et bon, les rediffusions, on les a déjà dit, on n'a pas le temps de les dire. Donc on vous laisse, ciao à tous, tenez bon. Et bah, à dans un mois.
Allez, ciao!
Et bon courage à tous!